Chut, on écoute la télé avec les tourtes Limousine. Spécialité élaborée en Limousin sans huile de palme, sans conservateur. Pâté de pommes de terre, viande et autres tourtes confit de canard, cèpe ou gésier en vente partout dans vos grandes surfaces.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence. C'est l'heure de Chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Open FM, votre radio des monts en Bazac avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 17h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chute, on écoute la télé sur Open FM.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et je vous souhaite donc la bienvenue pour ce nouveau numéro exceptionnel de Chute en écoute la télé qui vous attend aujourd'hui, hein, en ce lundi 11 février, dans un instant. Alors on va démarrer pas comme d'habitude avec une première partie, hein, concentrée sur notre coup de cœur ciné de cette semaine consacrée à All Inclusive et au film Ralph, puisqu'il est dans les deux. D'une partie, bien pour la voix animée évidemment, et l'autre partie, puisque c'est le héros du film, c'est François-Xavier Demaison qui va nous rejoindre dans un tout petit instant, une poignée de secondes, hein, il sera là. Et puis le coup de cœur télé de cette semaine consacré à Sam. Vous savez, on a enchaîné les personnages de la série depuis maintenant 2 semaines. Et bien c'est le personnage d'Aurélie aujourd'hui que nous accueillerons. C'est Charlotte Gassiot qui sera notre invitée. Et puis à partir de la deuxième partie de l'émission, et bien direction Luchon, je vous emmène au Festival des créations télévisuelles avec le palmarès, les réactions exclusives des lauréats de cette 21e édition. Jean-Luc Reichmann pour Léo Mattei, plein de surprises vous attendent. Je peux vous le dire dans cette émission. Pour voir d'ailleurs toutes les photos que l'on a fait sur le festival, rendez-vous sur notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Mais sans perdre plus de temps, on va tout de suite démarrer. François-Xavier Demaison s'installe à mes côtés. C'est parti pour notre spécial ciné de cette semaine.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur ciné cette semaine. Alors, ça va pas être facile. Il va falloir choisir entre 2 coups de cœur ciné, mais évidemment pour les plus jeunes, parce qu'en plus c'est les vacances scolaires. Rien de tel que d'aller voir un film d'animation Disney. C'est Ralph 2.0. Et puis la voix de Ralph, eh ben, c'est François-Xavier Demaison qui est avec nous. Bonjour, François-Xavier.
Bonjour.
Un habitué de l'émission. Et en plus, à l'affiche aussi de All Inclusive qui sort cette semaine aussi. Alors là, le cœur balance, hein, entre les deux.
Oui, c'est deux films très différents. Je suis très très heureux de retrouver Ralph, qui est un personnage voilà, qui a marqué ma vie. Il y a 6 ans, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce personnage et j'étais heureux de le retrouver, dans de nouvelles aventures.
Il y a 6 ans. Connecté.
Oui, oui. Il va découvrir Internet, Ralph, et ça, voilà. Et comme il, généralement il fait rien dans la dentelle, bah il va un peu tout casser encore. Hein.
Heureux d'avoir retrouvé cette voix justement de Ralph et ce personnage.
Oui, c'est une vraie consécration de faire une voix de Disney. C'est un vrai bonheur pour moi, pour ma fille, pour tous les gens qui m'entourent. On s'inscrit dans l'histoire Disney. C'est pas rien. Et puis c'est vrai que les valeurs qui émanent de ce joli film, c'est voilà, dans son amitié avec Vanellope, ça m'a vraiment emballé, quoi. C'est une très jolie histoire d'amitié entre Ralph qui aime bien sa vie avec sa copine, qui veut rien changer, et puis elle qui a envie d'un peu autre chose, et finalement il va devoir s'adapter et comprendre ce que c'est qu'être un vrai ami. Voilà.
Alors c'est une aventure connectée puisque c'est Ralph 2.0, il va découvrir Internet dans cette nouvelle aventure, et il va y avoir plein de personnages Disney qui vont venir se mêler à cette aventure.
Oui, exactement. C'est assez extraordinaire parce que c'est Internet vu par Disney. Donc le spam devient un petit truand. Celle qui gère les réseaux sociaux devient une espèce de patronne de journaliste, grande journaliste de mode. Il y a comme ça vraiment toute une poésie qui apparaît de tout ça, et puis des jolis messages. Par exemple, voilà, c'est pas parce que t'as des critiques sur Internet que t'es pas quelqu'un de bien, c'est pas parce que t'as pas de likes qu'on t'aime pas. Enfin, c'est des jolis messages, je trouve, qui sont assez modernes, parce que c'est vrai que je trouve ça bien de tenir ce genre de discours aux plus jeunes et aux plus vieux. Et pour ça, voilà, le film est très très réussi.
Ralph, la première aventure que tu as vécue il y a quelques années, comment tu es arrivé ? Est-ce que c'est Disney qui est venu te proposer ça ?
Oui, c'est Jean-François Camilleri et Wallem Lamène, toutes les équipes de Disney qui sont venues me voir et qui ont eu envie de me faire incarner ce personnage. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais un petit peu rond et que Ralph aussi, je sais pas. Peut-être que voilà, il dégageait une bonhomie qui leur a fait penser à moi. En tout cas, depuis, c'est un bonheur de défendre ce personnage parce que c'est des films très très réussis, voilà, qui sont pleins de créativité.
La première fois que tes enfants ont vu le premier film d'animation Disney avec ta voix, qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Je crois que ma fille, elle est très fière. Elle est très fière de ça et elle se rend compte à travers les autres parce que pour elle, ça lui paraît naturel. Mais quand de temps en temps, il y a des copines à elle avec qui elle à qui elle monte le film ou qui lui parle de ce film, elle dit oui, c'est quand même mon père, Ralph. Hein.
Ça rigole pas.
Ah oui, c'est quand même.
Raconter ça aux copines, ça l'a pété un peu.
C'est du lourd.
Exactement. Est-ce qu'il y a des personnages de Disney qui t'ont marqué à travers les époques? Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué?
Je suis très fan de la première période, des contes de fées, Blanche-Neige, La Belle au Bois Dormant, et puis plus récemment Le Roi Lion, et puis plus récemment encore.
Sorti en film d'ailleurs.
Oui, Zootopie, Vice Versa, qui sont des films que je trouve vraiment formidables. Je suis un grand fan des films Disney. Hein, je prends beaucoup de plaisir. J'en loupe jamais. Hein.
Quand ils sont venus te chercher, j'imagine ta joie.
Ah mais grave, et de pouvoir remplir comme ça, j'espère qu'il y aura un 3. Voilà.
Ralph 3.0, on sait pas.
On sait jamais. Qu'est-ce qu'il va découvrir encore, ce Ralph?
Bon, en quelques mots, comment démarre l'aventure? Comment démarre le film sans trop spoiler?
Ralph et Vanellope sont très copains. Ils ont une petite routine qui convient bien à Ralph, mais dans laquelle Vanellope s'ennuie un petit peu. Et c'est là que les ennuis vont commencer. Parce que Ralph va vouloir faire plaisir à Vanellope. Et Ralph, c'est Ralph la casse. Hein, donc il va y avoir de la casse.
On écoute la bande-annonce?
Avec joie.
C'est parti, Ralph 2.0. Eh bien, c'est mercredi dans les salles.
Très bien, nous allons nous connecter. Wi-Fi ? C'est quoi, Wi-Fi ?
Ça veut dire allons-y.
Salut tout le monde !
Nous sommes en ligne.
Oh la vache.
En route vers l'Internet !
Sois toi-même, fonds-toi dans le décor.
Regarde là-haut, ils ont même une tour glouglou. Si on a soif, on saura où glouglouter.
Perdez votre graisse abdominale grâce à cette astuce.
Oh. Ces joyeuses ménagères veulent vous rencontrer.
Ah bon? Tu veux t'enrichir en jouant à des jeux vidéo?
La course infernale, c'est méchamment dangereux.
Tiens.
Je sauve ma peau.
On sait jamais qui on peut rencontrer.
Y a que des gens bizarres ici, on rentre chez nous.
Tu vas nous suivre, petite.
Qu'est-ce qui se passe?
L'internet s'effondre.
Je suis vert de peur.
Ralph, amène.
Je vais tout casser.
Quoi? Alors évidemment, on bascule de l'univers Disney à l'univers All Inclusive. Ça, c'est un autre film qui sort avec toi cette semaine aussi. Deux films à affiche en une semaine, dis donc. Tu fais fort cette année.
Oui, il y en aura d'autres aussi, j'espère.
On n'en doute pas.
J'en ai tourné d'autres, en tout cas. Il y a aussi d'autres films en cet été. Mais ouais, All Inclusive, c'est un film qu'on a tourné l'été dernier avec Franck Dubosc, un film de Fabio Antoniente, avec Josiane Balasco, Thierry Lhermitte.
En Guadeloupe,
excusez du peu.
Au Club Med.
C'est un film qui est une grande comédie populaire, très drôle. Je suis censé partir en voyage de noces avec Maïwenn en lune de miel, et puis je vais me retrouver à partager mon bungalow avec Franck Dubosc, donc ça va pas être la même.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un mélange entre Les Bronzés et Camping?
Mais c'est tout à fait, c'est très flatteur, c'est des bonnes références, en tout cas c'est des films que moi j'ai adoré en tant que spectateur, et c'est un film qui va faire du bien aux spectateurs en ce mois de février, je dirais glacial.
Exactement, un peu de soleil sous les tropiques. Quelle a été la scène pour toi la plus drôle à tourner?
Les scènes qui m'ont fait beaucoup rire, c'est quand Franck, effectivement, est sans gêne et utilise mes slips, coupe mes chemises. Voilà. C'est le rapport de l'emmerdeur, quoi. C'est tous ces films-là où vous avez un type qui va avec son culot, va gâcher la vie de l'autre sans s'en rendre compte, et ça crée souvent des beaux couples au cinéma.
Alors François-Xavier, je sais que tu aimes beaucoup la scène aussi. Voilà, c'est comme ça que t'as commencé. Après la finance, tu es arrivé sur scène, tu t'es envolé, tu t'es évadé. Prochain spectacle?
Je fais les dernières dates de ma tournée. C'est mon troisième spectacle qui sera à l'Olympia 18 et 19 avril et qui sera en direct sur Canal Plus le 19 avril. C'est une très belle année avec plein de choses très très différentes. Donc très heureux que cette tournée s'achève parce que j'ai déjà joué 250 fois ce spectacle, mais très heureux de la finir en beauté à l'Olympia.
Tu penses déjà à la suite?
Bien sûr que j'y pense et je viendrai vous en parler.
Quatrième spectacle, c'est déjà en préparation ou?
C'est toujours en préparation, tu sais, moi là je prends des petites photos des gens qui m'entourent et je mets plus ou moins de temps à les développer, donc je suis toujours à l'affût de situations drôles et voilà, mais bon, c'est une grosse année avec le théâtre de l'œuvre, avec dont je suis propriétaire et directeur, avec la série Quadra, on remplit pour une saison 2.
Ah bien.
Ouais, je suis content, surtout qu'on l'a vendu à la Fox. On a vendu le format à la Fox, donc ça c'est une vraie consécration pour des petits Français. Et puis c'est une année bien chargée et très heureux en tout cas qu'elle démarre par mes retrouvailles avec ce personnage de Ralph que j'adore et qui est vraiment un personnage qui m'accompagnera toute ma vie.
Écoute, on espère un 3 en tout cas pour toi, parce que je vois que...
Un 3, j'en ai parlé à Rich Moore, je lui ai dit bon à quand Ralph 3?
écoute, nous aussi. Alors, pour résumer, RAF 2.0, oui, c'est mercredi dans les salles. All Inclusive, c'est mercredi également dans les salles. Quadra, saison 2 en tournage bientôt. Et puis spectacle, eh bien écoute, en direct carrément sur Canal Plus pour tout le monde. Pour les abonnés, ça sera le 19 avril prochain. Voilà. Rendez-vous à ne pas rater à 21h.
Exactement. Voilà.
On est bien chargé.
On est bien chargé, exactement.
Et bien, on va se quitter avec un petit extrait d'All Inclusive. Ça, ça sort également mercredi dans les salles. Belle actualité en tout cas pour François-Xavier Demaison qui était notre invité aujourd'hui. À très vite et à bientôt.
À bientôt.
Pat la gourmette, Santa Claus.
Ah, comme le pape.
Non, mais c'est Jean-Paul.
Plus loin, 6.
Monsieur Saucisse n'a pas de chambre, alors on a pensé que vous pouviez partager la vôtre.
Oui, c'est encore moi. Je voulais juste te dire que...
Je pense à toi, je t'embrasse.
Ta nana, tu veux la récupérer, il n'y a pas 36 méthodes. Il n'y en a qu'une. Merci pour la chemise. Hein. Pour le slip, j'en prendrai qu'un, je ferai recto verso.
Pour les boissons, on mélange un tiers alcool, deux tiers d'eau.
Alors quatre, bora bora, all inclusive.
Salut.
Moi c'est Jean-Paul, on est arrivé hier avec mon pote.
Mais tu m'as pété dessus là.
Non, 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 je sais pas pété, c'est une bulle de maillot. J'ai pas pété. Dans l'eau.
Je suis sûr que t'es en train de regarder mes seins.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va continuer à parler de Sam tout au long de ces semaines de diffusion. Alors vous allez voir évidemment épisodes 5 et 6 ce soir sur TF1 et on a le plaisir de recevoir Charlotte Gassiot qui est avec nous. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, une habituée de l'émission. On est très heureux de t'avoir une nouvelle fois avec ce personnage d'Aurélie alors qu'on a vu sur les 4 premiers épisodes un petit peu mais qu'on va voir beaucoup plus sur les 4 derniers je crois.
Ouais, le personnage d'Aurélie a un peu plus de choses à faire dans les 4 suivants, effectivement.
Alors enfin, Aurélie aurait-elle trouvé l'âme sœur dans la saison 2 ? Et est-ce que ça continue évidemment en saison 3 ?
À l'histoire d'amour continue avec Baptiste, qui est joué par Bertrand Huskla. On est content de se retrouver en plus parce qu'on est copains, on a joué au théâtre ensemble. Donc l'histoire d'amour continue entre Aurélie et Baptiste. Mais cette saison, il y a un petit caillou sur la route. Il y a un gros sujet de discorde dans leur couple. Moi-même, je sais pas encore s'ils restent ensemble.
Ah, ça sera pour la saison 4 après, ouais, hein. Ça. Voilà, exactement. Comment ça va se dérouler un petit peu entre le personnage de Sam et le personnage d'Aurélie? Ça va fighter un petit peu, hein, cette saison.
Ouais, je crois qu'Aurélie a tellement pris confiance en elle, depuis 3 ans, que, aujourd'hui, elle est prête à aller, à s'affirmer plus et à, jusqu'à aller au clash avec Sam quand elle est pas d'accord avec elle. Alors, ça lui pèse. Je pense que c'est difficile pour elle de sortir de ses gonds. Mais elle l'a fait et ouais, c'était difficile même à tourner parce que je sais que c'est pas sa personnalité et c'est pas comme ça qu'elle est, mais je crois qu'elle était tellement quand Sam va trop loin, maintenant elle est capable de lui dire.
Une saison 3, voilà, on espère évidemment tous une saison 4, hein, elle est en écriture, ouais. Mais est-ce que tu as des rêves pour Aurélie et sur les axes que tu voudrais que prennent les scénaristes pour ton rôle ?
Ben j'aimerais qu'Aurélie pourquoi pas se marier, pourquoi pas avoir des enfants dans sa vie perso, on va dire, mais j'aimerais surtout, ce qui concerne la série et le collège, j'aimerais bien qu'elle soit plus proche des élèves, qui se passe, pourquoi pas qu'elle ait des histoires aussi avec eux, comme ce que vit Sam, enfin voilà, peut-être qu'il y ait un élève qui ait besoin d'elle à un moment, qui, voilà, j'aimerais qu'il se passe des choses comme ça, parce que j'ai trouvé ça très agréable de jouer avec les enfants. Je l'ai pas beaucoup fait dans la saison 2. J'ai un super souvenir de tournage sur cette saison. Je crois que c'est le tout dernier épisode où je suis avec un enfant qui est... c'était son premier tournage de toute sa vie. Et il était absolument génial. Je crois qu'il joue Kylian. Enfin bon, il est...
On verra la semaine prochaine, du coup.
La semaine prochaine, voilà. Mais alors, cet enfant, il était vraiment super. Et c'était un plaisir de jouer avec. Et je me suis dit, mais j'ai envie de ça encore, quoi, de jouer avec des enfants dont c'est peut-être le premier tournage ou pas, mais en tout cas qui ont cette fraîcheur, cet instinct. Et je crois que c'est peut-être mon côté un peu maternel, mais j'aime bien les accompagner et partager ça avec eux.
Justement, il y a une scène dans cette saison 3 pour toi qui a été difficile à tourner ou que tu appréhendais, ou alors qui a été ultra marrante et que tu as dû faire 15 prises.
Pour moi, il y a deux scènes qui ont été particulièrement difficiles. Ben, c'est quand on se dispute avec Sam. Parce que c'était des choses que j'ai pas l'habitude d'aller chercher en moi et encore plus pour Aurélie, parce que c'est pas moi qui m'énerve, c'est elle. Donc c'était à trouver la juste dose parce qu'Aurélie s'était pas encore énervée là, donc il fallait trouver comment elle sait comment elle fait ça elle. Et puis sans spoiler, dernier épisode, on va dire que je crois que c'est le truc d'Aurélie, c'est qu'en dernier épisode de saison, elle fait quelque chose de complètement dingue. L'année dernière, elle s'est mise toute nue. Cette année, elle fait encore un truc dingue et c'était.
Et on va voir ça la semaine prochaine.
Et c'était dingue à tourner, mais je crois que le résultat est beau et on verra. Je vous dirai si ça vous a plu.
Bon, en tout cas, saison 3, il y a 8 fois 52 minutes. Hein, on en parlera également avec les productrices qui seront avec nous la semaine prochaine, justement du final. Merci à toi, Charlotte, et puis à très vite.
À très vite, merci.
Et Sam, eh bien c'est ce soir, c'est la suite, et c'est à 21h10 sur TF1.
Aurélie, je supporte pas l'idée d'appeler les flics. Mais je fais quoi là? Ah, oh, j'en étais sûre. C'est inadmissible. Oui, je vais te le retrouver, ton corbeau. Vraiment, et bientôt, je te promets.
Ça fait des semaines que je te l'ai demandé. Si t'en es pas capable, tu me le dis, mais j'en ai marre qu'on se foute de moi.
Non, Véronique, vraiment, je te promets, je vais le retrouver. J'aurai besoin de tous les emplois du temps de tous les élèves. C'est possible?
Allez, dans 3 minutes, direction le Festival des Créations Télévisuelles, 21e du nom. Alors, on se retrouve dans les Pyrénées dans 3 minutes. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite.
Laissez-vous emporter par la musique sur Radio Open FM, votre radio.
On écoute la télé, spécial festival.
Allez, de retour dans Chute, on écoute la télé. On va donc démarrer notre spécial Luchon en partenariat avec le restaurant et Caprice d'Etigny, l'hôtel Le Céleste et Volkswagen Marraine. Alors, on va démarrer en deux temps avec tout d'abord nos invités coup de cœur télé depuis Luchon, puisque nous allons recevoir, eh bien, dans un instant, Vincent Moluquet pour le retour de la série Zone Blanche, hein, ce soir sur France 2. Nous aurons une spéciale Ma mère, le crabe et moi, le téléfilm diffusé mercredi sur France 2 avec une partie de l'équipe qui sera avec nous. Nous parlerons également de Léo Mattei puisque Jean-Luc Reichmann sera notre invité exceptionnel et un focus documentaire avec Marie Drucker hein, qui faisait partie du jury documentaire ainsi et bien que le Pyrénées d'or du documentaire Karina Siamed, productrice de Rosemary Kennedy qui est-il arrivé à Rosemary Kennedy qui a été diffusée hier soir sur France 5. Et en fin d'émission, on déroulera ensemble le palmarès de cette édition avec les réactions des lauréats ainsi que le président et bien du jury fiction Dominique Besnéard qui sera notre invité. Alors c'est parti, on démarre tout de suite avec nos coups de cœur télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, au Festival de Luchon, on continue notre spécial. Et puis ce soir, eh bien, c'est le lancement de Zone Blanche. La saison 2 inédite arrive sur France 2. Et on a le producteur qui est avec nous, c'est Vincent Moluquet. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors la semaine prochaine justement on recevra Hubert Delattre hein, qui joue Nounours hein, dans la série bien évidemment. Le directeur production sera avec nous aussi, on continuera à en parler. Mais d'abord on va déjà planter le décor de cette saison 2 où on découvre que Lorraine n'est pas morte.
Exactement. On commence 2 mois après comment dire, la fin de la dernière saison. On la retrouve comme revenue d'entre les morts. Voilà, ses plaies se sont cicatrisées de manière spectaculaire. Notre médecin légiste et ami très proche de notre héroïne s'en étonne chaque jour. Ce qui d'ailleurs va la faire enquêter tout au long de la saison sur qu'est-ce qui vaut comment dire, cette chose-là. Surtout que Lorraine n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé en forêt. Elle ne sait pas exactement elle-même. Elle a des intuitions, des ressentis. Donc il va falloir maintenant qu'elle se lance dans cette deuxième saison, en quête d'elle-même et enfin s'ouvrir aux autres pour découvrir, livrer son passé, son trauma originel et voilà, essayer de trouver un peu ce qui a provoqué tout ça et ce qui fait qu'elle est profondément attachée à cette forêt, intimement, organiquement. Et voilà, c'est l'enjeu pour elle toute cette saison.
Moi je dis que cette forêt et Villefranche devient de plus en plus inquiétant. Hein.
Inquiétante, je ne sais pas, dans le sens où le projet Zone Blanche était surtout s'attacher à une tribu de personnages qui chacun ont un rapport singulier à la nature. Chaque personnage se définit de manière soit fusionnelle, soit contrariée, soit de manière dans des rapports violents. Les Steiner, le maire et son père, Gérald, veulent dominer la nature. Voilà, et avec cette carrière qu'on découvre dans la saison 2, on s'aperçoit que cette carrière, même si elle a été façonnée par l'homme, elle est plus grande qu'eux. En tout, et cette forêt étant au refuge, on a un épisode 5 où on découvre Suliane endormie au pied des arbres, dans un moment de douceur. Voilà, elle accompagne tantôt le personnage, tantôt refuge, tantôt menace, c'est vrai. Et on va découvrir, on va pas tortiller, dans cette saison 2, notre dieu des bois, Cernunnos, figure de la mythologie celte, qui hante ces bois pour la protéger. Lorraine, protéger cette communauté ou pas? Est-ce qu'il est là pour la protéger d'elle-même ou est-ce qu'il veut lui envoyer un message? On le découvre dans cette saison.
Eh bien, ce soir, on va découvrir en tout cas ces 2 premiers épisodes inédits. Zone Blanche, ça revient sur France 2 juste après un si grand soleil à 21h10. Merci d'avoir été avec nous, Vincent.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Et on se quitte tout de suite avec la bande-annonce. Et puis, lundi prochain, eh bien, nous accueillerons une autre partie de l'équipe avec notamment celui qui joue le rôle de Nounours, Hubert Delattre.
Je cherche ma fille.
Elle est là, c'est ça?
Quelqu'un a tué ta fille, ma petite fille.
C'est Camille qui aurait tué Marion.
Camille?
Ouais. C'est elle aussi qui filait toutes les infos, je t'ai dit.
Maman, qu'est-ce que tu lui as fait?
Je peux d'ores et déjà vous dire qu'après ces temps difficiles...
Je suis désolée.
Villefranche va enfin connaître des jours meilleurs.
Allez, au Festival de Luchon était programmé Ma mère, le crabe et moi. Le téléfilm, en plus, ça tombe bien, est diffusé mercredi sur l'antenne de France 2. Et on a la chance d'avoir avec nous le réalisateur, Yann Samuel. Bonjour Yann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La jeune héroïne qui joue le rôle de Tania, c'est Laurette Nissen qui est avec nous. Bonjour Laurette.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Melchior Lebeau qui joue le petit ami de Laurette. Hein.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Yann, c'est un sujet sensible qu'on va voir mercredi. Très bien joué d'ailleurs par Émilie Decken, l'histoire d'une maman qui fait tout pour cacher à sa fille qu'elle est atteinte d'un cancer. Hein.
Oui, c'est ça. En fait, c'est adapté d'un livre de Anne Persin, qui est un livre a priori pour jeunesse, mais qui en fait s'adresse à un public bien plus large. Et dès qu'on m'a proposé d'adapter ça, j'ai plongé dessus parce que c'est un sujet qui est à la fois extrêmement émouvant et très drôle en même temps. C'est-à-dire qu'on suit réellement le cancer du point de vue d'une adolescente qui va, au moment où elle découvre un petit peu l'indépendance, la vie presque adulte de l'adolescence, s'apercevoir que tout ça est entravé par la maladie de sa mère et que ça va être un va-et-vient constant entre rire et larmes, entre je te déteste et je t'aime maman et je veux te prendre dans les bras puis je veux surtout plus te voir, même pas en photo. Voilà.
Surtout qu'au début, hein, c'est assez cash hein, les rapports quand même entre la mère et la fille. Hein.
Oui, au départ, c'est un peu une ado rebelle, on va dire. Et oui, enfin après, ça évolue au fur et à mesure du film, quoi.
Qui a eu l'idée de cette histoire et qui a eu l'idée de l'adapter, surtout ?
En fait, c'est la productrice, c'est Martine Lheureux, qui a eu l'idée de l'adapter. Elle m'a appelé en me disant « j'ai acheté les droits de ce livre que je connaissais » et pour moi, ça m'a pris même pas... je crois que c'est pendant la conversation téléphonique, je la connaissais pas, cette productrice. Pendant la conversation téléphonique, je lui ai tout de suite dit « ben oui, 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 on part, banco ».
Ta rencontre avec Émilie, comment ça s'est passé, toi, Laurette ? Est-ce qu'elle t'a impressionné au départ ? Comment s'est instauré le rapport entre vous deux ?
Bah, la première fois que je l'ai vue, c'était pour le dernier casting que j'ai fait pour le téléfilm. Et vraiment, j'étais un peu impressionnée au départ. Mais après, ça s'est fait naturellement. Et vraiment, j'ai eu une relation hyper, hyper cool avec Émilie. Et vraiment, je l'aime trop. Enfin, voilà, c'était ma maman le temps du téléfilm.
Yann, en tant que réalisateur, qui a été la scène peut-être la plus difficile sur le papier et en tournage ?
Ah, la scène la plus difficile, il y en a pas mal dans le film. Je pourrais dire les scènes d'émotion, parce qu'il y a des scènes où clairement on fait pleurer, mais les scènes les plus difficiles à mon sens c'était les scènes où on fait rire, parce qu'à partir d'un sujet comme ça, réussir à faire rire, et à chaque fois qu'il y a eu projection, le public était plié de rire, donc je me dis que c'est celle-là qu'on a le plus réussi. Voilà.
Mais c'est toujours assez difficile hein, de trouver ce mélange entre comédie et drame, on appelle ça de la dramédie d'ailleurs aujourd'hui, mais on dit toujours effectivement que c'est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer.
Absolument. Alors moi, j'en connais un rayon là-dessus, parce que faire pleurer, je crois que c'est assez facile, effectivement. Il suffit de mettre les bons ingrédients, c'est une cuisine un petit peu de base. Faire rire, le rire est très subjectif, c'est très temporaire, ça fait rire à une époque et pas à une autre. Ça fait pas rire selon les régions, enfin les mêmes choses ne font pas rire selon les régions, certainement pas selon les pays. Donc réussir à faire rire un grand public, c'est bien plus compliqué, et tous les comédiens le diront d'ailleurs. C'est beaucoup plus une affaire de rythme et d'empathie avec le public et le personnage que de faire rire plus que de faire pleurer.
Surtout sur un sujet comme ça. Vos meilleurs souvenirs de tournage à tous les deux, Melchior ?
Alors moi, c'était la scène de la piscine où je devais être le garçon le plus maladroit du monde et j'adore ça. J'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas.
J'adore être maladroit donc.
Bah sur devant la caméra, sur scène, j'adore. Je trouve ça tellement un personnage. On s'accroche facilement à ce genre de personnage.
Et pour toi, Laurette ?
En fait, moi, j'ai pas vraiment un souvenir précis, c'est juste l'ensemble, l'ambiance, tout ça. Enfin, vraiment, c'est. Waouh! Vraiment, Melchior et Mivek, celle qui joue Marlène, donc ma meilleure amie dans le film, vraiment, c'est super bien entendu et toute l'équipe, enfin, c'était top quoi.
Prête à faire d'autres films en France alors maintenant?
Ouais, j'espère, j'espère, ouais.
Bon, je suis sûr que ça va t'ouvrir des portes en tout cas. Ne le manquez pas, ce très beau téléfilm. C'est mercredi à partir de 21h10, juste après Ainsi Grand Soleil sur France 2. Ma mère, le crabe et moi, Émilie Decaen, Carole Franck, Jérôme Robard. Un très très beau casting à ne pas manquer.
Je disais, ça fait l'objet d'un débat sur France 2 qui suit et encadre le film. Voilà.
Effectivement, j'allais le dire, effectivement, ça sera suivi d'un débat à ne pas manquer aussi. Merci à tous les trois.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Tania, faut que je te parle. Tu finis les cours à 17h ?
Tu me parles ?
Tu veux que je vienne te chercher après les cours ? Avec un goûter ? Puis quand encore, ça va pas ou quoi ? De toute façon, je vais chez Marlène après les cours.
Ok, bon.
Mais on dîne ensemble après, hein ? J'ai fait une nouvelle recette de lasagne au saumon. Il faut que je te parle.
Faut aller parler, mais franchement, t'en as pas marre, Cathy, de parler toute la journée ?
Non mais... Ça sort d'où cette idée de m'appeler Cathy, là ?
Parfum, mon prof de sport ! Ça fait chier, tu l'as raté.
Allez, cette spéciale Luchon est faite de surprises. Et évidemment, Jean-Luc Reichmann en est une belle pour nous, puisque c'est le lancement de Léo Mattei jeudi sur TF1. Sa saison 6, c'est inédite. Et Jean-Luc est avec nous. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour, comment ça va ?
Ça va très très bien. Merci d'être avec nous, Léo Mattei, saison 6. 5 saisons pleines de suspense, puisque Léo Mattei a enfin retrouvé sa fille.
Ouais, c'est ça là en fait. Et puis là, à partir de jeudi soir, effectivement, soir de la Saint-Valentin, c'est un moyen de crier son amour en famille pour effectivement voir que la société est pas si facile que ça. Et que, bien évidemment, vous l'avez compris, ça va être de soulever les soucis de société, c'est-à-dire le harcèlement à l'école. Dans le premier épisode, ça se passe dans une école hôtelière, c'est pour ça que j'ai fait appel à Michel Sarran, le grand cuisinier toulousain, bien évidemment. Voilà, pour une crédibilité supplémentaire et se dire, faisons de la prévention pour nos enfants, on va découvrir effectivement un suicide à l'école. Ce sont des choses qui arrivent, Alain. Et vous verrez que chaque soir, dans chaque épisode, ce sont effectivement des événements qui se passent dans le quotidien des gens. Donc ça veut dire que ça peut tous nous arriver.
Alors la saison 5 était vraiment au fil rouge, hein, les retrouvailles d'Héloïse, magnifiquement interprétée par Maïra Schmitt. Et cette saison 6 va certainement être l'occasion de s'appréhender entre le père et la fille, d'apprendre à se connaître.
Alors, vous savez, c'est très très délicat. On peut être très très bon avec les enfants des autres et pas très bon avec les siens. Et ça, je dois vous avouer que moi, voilà, qui en ai une demi-douzaine à mon actif, des enfants, je parle. Je dois vous avouer que à chaque âge, ses petits soucis, à chaque âge, ses petits problèmes. Et c'est vraiment compliqué de vivre une relation père-fille, surtout quand celle-ci a été enlevée, comme vous le savez,
l'âge de 6 ans.
Pendant 8 années. Donc c'est plus la même qui est là. Donc il faut se réamadouer, se réapproprier l'identité du papa et de la fille, et puis essayer d'apprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est très 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 compliqué.
Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc, il y a des sujets qui vous ont plus touché?
Les sujets qui m'ont touché, c'est vraiment le harcèlement scolaire. Vous savez, je lutte vraiment pour cette prévention. Le harcèlement scolaire qui peut engendrer des drames, puisqu'on va commencer la jeudi soir avec un suicide dans l'école hôtelière. Et vous allez voir, c'est des images qui sont très dures. Mais je pense qu'il faut quand même regarder tous ces épisodes avec les enfants pour pouvoir en parler en famille. Donc voilà, tous ces épisodes, ce sont effectivement des moments qui sont très durs, qui sont très lourds, et en même temps, toutes les histoires sont prenantes. Dans la deuxième partie de soirée, ce jeudi 14 février, c'est l'histoire d'une mère qui pousse sa fille dans une école de danse, parce que elle se projette en sa fille. Elle n'a pas eu la gloire à la danse, elle va dire, eh ben ma fille, toi tu vas y arriver. Mais vous savez, les mini-miss, c'est ça aussi.
Ce qui arrive souvent dans les cas de Miss France, oui.
Bien évidemment. Donc je pense que il faut être lucide par rapport à cette société, et plus on fera de la prévention et plus on fera de la transmission, et quelque part plus l'avenir sera beau.
6 nouveaux épisodes, comment on trouve le temps, Jean-Luc, quand on est à la tête d'une quotidienne 7 jours sur 7, comment on trouve encore le temps pour faire 6 épisodes de Léo Mattei? Est-ce que ça va être à nouveau le cas en 2019? Est-ce que vous allez pouvoir nous servir une saison 7?
Ouais, pour l'instant, si vous voulez, je suis très très lucide et j'essaye vraiment de prendre le bonheur tel qu'il vient. Mais vous savez, c'est juste une question d'organisation, hein. Tout est très 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 bien planifié.
Alors, je suppose que vous prenez du plaisir à ces 12 coups de midi, évidemment, puisque en plus, ça fait naître quasiment des véritables stars, parce que Christian Quesada, aujourd'hui, tout le monde le connaît. C'est vrai que c'est un plaisir d'animer un jeu comme ça avec en joie. Nous, on y est tous les midis avec vous, Jean-Luc.
Ouais, mais n'oubliez pas, alors c'est assez rigolo, parce que c'est vrai que c'est tellement dans le partage, c'est ça en fait. Il faut jamais oublier que si c'est pas partagé, ça vaut pas le coup. Donc c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir m'exprimer sur TF1. J'ai la chance surtout que TF1 me fasse confiance 365 jours par an. Donc à partir de ce moment-là, voilà, c'est juste une question de partage.
Des surprises, il y en aura certainement, avec peut-être des 12 coups spéciales en prime cette année. Léo Mattei, ça débarque jeudi. Ouais. 6 nouveaux épisodes inédits, on découvrira les 2 premiers à ne pas manquer. Et puis on vous retrouve à midi tous les jours dans les 12 coups de midi. Merci infiniment, Jean-Luc.
Merci à vous.
Et on vous embrasse, à très vite.
Merci beaucoup.
Bonjour, commandant.
Jonathan, qu'est-ce que tu fous là?
Si vous saviez comment vous m'avez manqué. Du coup, j'ai demandé ma mutation à Marseille.
Qu'est-ce que tu racontes?
Oh, la vue. Ben, je viens travailler avec vous.
Tu viens bosser?
Ouais.
C'est qui?
Je te présente Jonathan, on travaille ensemble à la Brigade des mineurs à Paris. Héloïse.
Votre fille.
Ma fille.
J'ai beaucoup entendu parler de toi.
Oui, ben moi jamais.
Mais tu viens vraiment bosser ici?
Ouais. Par contre, j'ai pas encore d'appartement, donc si vous pouviez m'héberger quelques temps, ça serait sympa.
Bon, bah moi j'y vais, hein.
Tu vas où, là?
Bah chez la psy, t'arrêtes pas de me dire que je vais être en retard.
Attends, on va t'accompagner.
C'est bon, c'est à 200 mètres, j'y vais à pied.
Non, on t'accompagne.
Bon, bah je vous attends.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Alors on va démarrer notre focus documentaire maintenant, hein, cette spéciale festival de Luchon. Alors juste avant d'accueillir le lauréat, évidemment, le grand prix de ce festival, on va accueillir un des membres du jury, c'est Marie Drucker qui est avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors c'est un rôle important, en plus une sélection importante. 14 documentaires étaient à juger pendant ce festival de Luchon. Alors le ressenti général en tant que productrice et réalisatrice de documentaires?
C'est une sélection importante, vous avez raison, 14 films c'est beaucoup. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est l'éclectisme en fait, parce qu'il y a beaucoup, il y avait beaucoup de genres différents. Séries, histoire, société française, donc il y avait beaucoup de genres présents dans la sélection, donc ça c'était une difficulté particulière, parce qu'il n'y a pas différentes catégories, il y a plusieurs prix mais pas différentes catégories. Donc il a fallu dégager en tout cas pour le Grand Prix, celui qui nous semblait réunir tous les critères, c'est-à-dire répondre vraiment aux critères du documentaire, c'est-à-dire un sujet, un angle, un point de vue, une écriture, un fil tiré et tenu jusqu'au bout, des images et une qualité de montage d'images et d'utilisation des images. Voilà. Donc celui que nous avons choisi nous a semblé réunir tous ces critères.
Vous êtes une grande consommatrice de documentaires parce que c'est la vraie vie et souvent, il arrive souvent, enfin moi j'ai vu, quand j'ai vu les documentaires, j'ai des fois pris des claques. Hein.
Je suis une grande consommatrice de documentaires, de fiction, d'images en général, de séries, de films. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que le documentaire c'est la réalité. Je pense que, comme disait René Char, pour le paraphraser, c'est du réel soulevé. Et c'est quand même peut-être déjà quelque chose d'approchant de la fiction, puisqu'à partir du moment où cette réalité devient la réalité de l'auteur qui se penche dessus.
Il la traite sous un angle vu par lui.
Exactement. Donc on est dans une forme qui est très particulière, qui n'est évidemment pas du tout du reportage, qui n'est pas complètement de la fiction, mais qui est voilà un genre à part entière qui s'appelle le documentaire.
Comment vous choisissez-vous vos sujets quand vous avez envie de passer à la réalisation ou à la production ?
Alors, ce sont deux choses différentes. Quand je me penche sur un sujet, si c'est un film que je dois écrire moi et réaliser, ce sont des sujets qui sont un peu inconsciemment le résultat d'une réflexion qui est très ancienne et qui tout à coup s'impose à moi. Je me dis, voilà, c'est vers cela que je veux aller. Je réalise en ce moment mon 5e film documentaire et ce sont des sujets très, très intimes. Quand je dis intimes, ça ne veut pas dire qu'ils correspondent à quelque chose de mon intimité, mais que j'ai un lien intime avec le sujet lui-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a à un moment donné fait réfléchir, sur lequel j'ai envie de me pencher, parce que tout à coup j'ai fait une rencontre qui a éveillé en moi quelque chose. Voilà, c'est un rapport d'intimité sans que ce soit lié directement à mon intimité à moi. Quand je produis des films, là en ce moment je viens de finir un film pour France 5, je produis un film pour Teva, je produis un film pour France 2, ce sont des sujets qui viennent à moi et je me dis tiens, je n'aurais pas eu l'idée ou l'envie de les faire moi, mais j'ai envie de me battre pour qu'ils existent. Voilà.
Oui, c'est différent. Alors, ce 5e sujet, on peut le dévoiler ?
En ce moment, je réalise un film sur un sujet. Je travaille dessus déjà depuis 10 mois et j'ai pas encore complètement commencé à tourner. Donc, c'est vous dire la gestation lente. C'est quelque chose qui tourne autour de la vie psychique des tout petits, petits, petits enfants, des bébés.
Effectivement. Donc ça touchera certainement, voilà, puis ça sera l'occasion de venir peut-être le montrer à Luchon l'année prochaine.
Alors ça voudrait dire qu'il sera terminé.
C'est pas sûr.
Mais je serais ravie, évidemment, je serais extrêmement fière si un jour un de mes films est sélectionné à Luchon.
Marie, merci d'avoir été avec nous. C'est important, un rôle de jury, parce que voilà, on juge le travail de d'autres, donc je suis sûre qu'il a été fait vraiment en harmonie. Comment s'est passée la délibération ? C'était houleux ou ça a été ?
Ça a été très disputé entre guillemets, c'est-à-dire que chacun a vraiment, mais évidemment, enfin en plus on s'entend très bien, on a beaucoup ri, mais c'était assez très intéressant parce que on se rend compte tout à coup que quand on est membre d'un jury comme celui-ci, on n'est pas seulement spectateur avec voilà le ce qu'on ressent, notre sensibilité propre face au sujet qu'on vient de regarder. Tout à coup, on confronte notre point de vue. Donc il y a une forme d'intimité avec le film qui se brise pour le partager avec les autres. Et c'est un engagement tout à coup. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va, voilà, qui monte sur scène, qui va recevoir un prix. C'est important pour lui ou pour elle. Donc, c'est une responsabilité, puis c'est un engagement. C'est-à-dire, nous avons décidé que ce film était important. Voilà. Et nous avons décidé qu'il fallait le récompenser. Donc, voilà, c'est une tâche, mais c'est passionnant.
Eh bien, on espère en tout cas qu'il y aura d'autres. On se verra peut-être sur d'autres festivals. On vous souhaite plein de belles choses et on va accueillir le lauréat dans un tout petit instant. Merci Marie.
Merci beaucoup à vous, à bientôt.
Sur cette photo de famille des années 30, respirant le bonheur et l'ambition, rien ne laisse présager le drame qui s'annonce. La maladie, la disparition de l'enfant sacrifié. Rosemary, la petite sœur du futur président des États-Unis, allait disparaître de l'histoire officielle des Kennedy pour que se réalisent les ambitions du clan.
Voilà, ce Grand Prix, hein, qu'est-il arrivé à Rosemary Kennedy ? Eh bien, c'est le film qui a obtenu le Pyrénées d'or du meilleur documentaire, le Grand Prix. Et on est justement avec sa productrice, Karina Siamed, qui est avec nous. Bonjour Karina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il a été diffusé hier soir hein, sur France 5 à 22h40. Non. Alors, vous allez pouvoir le voir maintenant pendant 7 jours tout au long de la semaine, si vous l'avez raté hier soir, hein, Karina.
Exactement, c'est sur le replay de France Télévisions pendant 7 jours.
Alors cette histoire méconnue un peu du grand public, et en même temps, alors qu'est-il arrivé à Rosemary Kennedy? Comment vous avez enquêté, réalisé, enfin pas réalisé mais produit ce documentaire?
Alors Patrick Jeudy est un grand, donc il est le réalisateur hein, de ce film, c'est un grand connaisseur des Kennedy puisqu'il a fait plus d'une dizaine de films sur les Kennedy, et il avait déjà, j'allais dire, croisé le chemin de Rosemary Kennedy, notamment dans son film Il n'y a pas de Kennedy heureux, et depuis ce temps-là, il n'avait qu'un désir, c'était de pouvoir consacrer 52 minutes à cet enfant sacrifié par son propre père, en fait. Donc, Rosemary Kennedy avait un léger retard mental qui n'a pas été diagnostiqué à l'époque. Hein, on est au début du XXe siècle.
Mais on est dans les années 20. Hein.
C'est ça, les années 20. Et le film va surtout se concentrer sur les plus belles années, les années les plus heureuses de Rosemary en Angleterre quand elle a entre 18 et 21 ans, quand son père, Joe Kennedy, est ambassadeur en fait, des États-Unis à Londres. Et donc, le film va nous raconter donc, le destin tragique de Rosemary qui va devoir être évincée par Joe, qui a des ambitions pour le clan Kennedy qui sont très très fortes. Et en fait, elle sera donc lobotomisée par son propre père en 1943. En ce qui concerne Rosemary Kennedy, il y a eu une omerta par le clan qui parlait d'un accident. Parce qu'en fait, elle sort de la lobotomie complètement atrophiée physiquement et avec l'âge mental d'un enfant de 3 ans. Donc elle est très très abîmée par cet acte chirurgical qui, à l'époque, était considéré comme un progrès, en fait, de la médecine. Et effectivement, le clan va la cacher dans un couvent pendant des années. Et quand le père Joe Kennedy mourra, alors les langues pourront commencer à se délier. Ils reconnaîtront que leur sœur avait un handicap. Ils reconnaîtront qu'il y a eu un accident, mais c'est vrai qu'il faudra attendre beaucoup plus tard pour que le mot lobotomie puisse être prononcé. Il n'aura jamais été prononcé par les Kennedy eux-mêmes.
Et Patrick Jeudy a fait comment pour justement recueillir toutes ces informations, pouvoir justement être au plus proche de ce clan pour recueillir cette histoire?
Alors, comme je le disais, c'est un grand connaisseur. Le film est un tout archive. Donc, c'est vrai que la condition pour pouvoir faire un film pour Patrick, c'était qu'il y ait assez d'images de Rosemary. On a eu la chance, effectivement. Beaucoup des archives Kennedy sont mises dans des fonds d'universités américaines. Il y a aussi des fonds privés. Que ce soit le garde du corps des Kennedy, qui a des films personnels. Et donc, on a effectivement fait ces recherches. Et on s'est rendu compte, effectivement, dans ces années anglaises, toute la famille était très filmée, très photographiée. Et donc, il y avait assez de représentations. On entend la voix de Rosemary, il y a un moment assez émouvant où on entend le seul enregistrement de la voix de Rosemary Kennedy quand elle part de New York pour rejoindre son père en Angleterre.
Pour découvrir cette histoire fascinante, eh bien, n'hésitez pas sur le replay hein, de France Télévisions, puisque ce documentaire est passé hier soir sur France 5 et vous pouvez le découvrir eh bien, encore pendant toute cette semaine pour découvrir ce qui est arrivé à Rosemary Kennedy. Merci Karina d'avoir été avec nous dans cette émission spéciale pour ce focus documentaire, puisque je rappelle que ce documentaire a obtenu en plus le prix, le grand prix du Festival de Luchon et le Pyrénées d'Or du documentaire.
Merci à vous.
Suite en écoute la télé, spécial festival.
Allez, je vous retrouve dans un instant, juste après une petite pause. Dominique Besnéard, les réactions exclusives des lauréats, le palmarès complet de cette 21e édition du Festival de Luchon. Et puis bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir toutes les photos et les vidéos, les lives qu'on a fait sur notre page Facebook Chute en écoute la télé. Et bien c'est maintenant, vous pouvez y aller dès aujourd'hui. N'hésitez pas et on se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite.
Bouge pas, Chute en écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite.
Vous écoutez Radio Open FM, bienvenue chez vous.
Tu peux la trouver ancrée sur ma peau. Tous les soirs, elle reprend des couleurs. Elle te fera péter les plombs. Tu peux tomber dessus dans le métro. Elle se joue solo ou à plusieurs. Elle te fera parfois perdre la raison. Est-ce que tu ressens les pulsations d'un tape sur la caisse fait résonner le son? Est-ce que tu sens monter la pression? Oh, oh, oh. Le jour se lève, on se débriefe la soirée de la veille. Dans un after, sur les bords de scène. Une jam, deux concerts, trois festivals. On met le son, les basses à fond, Arcadian original. Au son de nos voix qui se mélangent, c'est pas banal. Est-ce que tu ressens les pulsations d'un tap sur la caisse fait résonner le son? Est-ce que tu sens monter la pression? Yeah. esprit. La folie arcadienne.
Vous écoutez Radio Open FM.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, sans président, il n'y a pas de festival, et sans festival, il n'y a pas de président. Et bien là, il est avec nous, Dominique Besnéard, président du jury Fiction, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Alain.
Je suis très heureux de vous avoir avec nous, Dominique. Alors déjà, moi j'avais envie de vous adresser des félicitations. Trois globes de cristal, la semaine dernière.
Trois globes de cristal, mais c'est même incroyable. On a même plus l'angoisse de se dire est-ce qu'on va voir quelque chose. C'est-à-dire qu'on a eu, sans prétention, tellement de distinctions qu'on n'est pas, à se dire pourvu qu'on l'ait. Et même, c'était le soir où François Hollande me remettait la Légion d'honneur. Eh bien, la plupart voulaient rester à ma soirée et ne pas aller au Globe. Mais quand même, au Globe de Cristal, moi-même, ils sont quand même allés. Voilà. Et heureusement, parce qu'on en a eu trois quand même.
Et oui, trois Globes de Cristal pour la série 10%. Pour cette saison 3 qu'on a vue il n'y a pas très longtemps sur France 2. Alors évidemment, tout le monde attend la prochaine, je peux vous le dire, avec impatience. Alors d'abord, déjà président du jury Fiction. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la fiction télé est largement aussi audacieuse, voire plus audacieuse que le cinéma ?
On peut pas dire qu'elle est plus audacieuse, mais en tout cas, elle prend le chemin d'être dans l'audace. Parce que ce qu'on voit dans la... D'abord, je trouve que les films sont bien filmés. Parce qu'il fut un temps où la télévision, quand même, on disait on filme pour la télévision et on filme pas pour le cinéma. Et maintenant, on ne dit plus ça. Quand on fait un film de télévision, on essaye de le faire aussi bien découpé qu'un film de cinéma, avec des points de vue, avec une lumière élaborée, avec, voilà, un rythme. Tout ça est venu avec le temps. En même temps, moi, j'ai toujours été très pro-télévision. Parce que je considère que on ne peut pas dénigrer le public. Et moi, j'ai été l'agent de Véronique Jeuneste à l'époque où elle faisait Julie Lescaut, et faire rassembler ce qu'elle rassemblait, à mon avis, 7-8 millions de spectateurs.
Elle est même montée à 11-12. Hein.
11-12, avec des émissions. Mais rendez compte ce que c'est. C'est-à-dire que c'est les plus gros succès du cinéma. Et en même temps, il y avait une volonté aussi de faire des histoires avec plusieurs stades. Et il y avait les histoires des gens qui étaient autour d'elle. Bon. Et puis la télévision aussi, il y a quelqu'un qui a beaucoup bousculé, c'est José Dayan. Quand elle a fait Le Comte de Monte Cristo ou Les Misérables, je peux vous dire qu'elle a bousculé la télévision en faisant des grandes sagas. Mais vous savez, quelquefois, les gens, ils ne savent pas. Il y aurait ce qu'il faudrait faire peut-être dans ce festival, une section, et je voudrais bien même l'animer s'il veut, sur la nostalgie des grandes séries télé, qui est peut-être un ou trois films d'un coup de cœur. J'en parlais à Christian, un coup de cœur pour un grand metteur en scène de télévision qui a fait quelque chose qui reste dans les annales. Voilà.
Cinéma, télévision, vous sciez tellement bien entre les deux, en produisant pour la télévision aussi bien, en produisant un des plus grands festivals de cinéma dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine, justement à Angoulême.
Exactement.
Donc il y a tellement de choses qui se percutent aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre la télévision et le cinéma quasiment.
Non mais moi, vous savez, quand j'étais agent, j'ai dit quelques fois, c'est que il y avait une quinzaine d'agents qui s'occupaient de leurs comédiens, et il y avait une personne pour s'occuper des projets de télévision de 400 personnes, pour montrer à quel point c'était ça. C'était quand je suis arrivé en 85. Et moi, je me suis dit, mais moi, je deviens agent, je veux m'occuper de la télévision pour mes clients et ne pas tout donner à cette femme qui était géniale, qui s'appelait Josette Arrigoni, qui a été la papesse des projets de télévision. Elle connaissait tous les metteurs en scène, elle connaissait tous les directeurs de fiction. Et après, on m'a suivi, et ensuite, c'est chaque agent qui s'occupait de ces acteurs.
C'est quoi vos grands projets pour 2019?
Ben 2019, on fait la saison 4, et là en ce moment je fais un projet, on développe avec Fédération une série sur le monde de la nuit qui s'appelle Cabaret de Paris, et qui est inspiré des cabarets. C'est une série très féminine autour d'une désespérée housewife du monde de la nuit. Voilà.
Bien, on vous retrouvera évidemment, donc on espère très vite hein, pour la saison 4 de 10% qu'on attend tous avec grande impatience, qu'on a eu le plaisir de recevoir plusieurs comédiens d'ailleurs dans notre émission. Nous, eh bien écoutez, on espère vous retrouver très vite au Festival d'Angoulême également. Ça sera cet été, fin août, entre le 20 et le 25 août, il me semble, précisément. Merci Dominique.
Au revoir, merci.
Alors parmi les prix qui ont été attribués, évidemment, il y a ceux qui ont été attribués par le jury web et digital. Le grand prix a été notamment attribué au Parfum d'Irak de Leonard Cohen. Et le prix de la meilleure série digitale documentaire à Gendar Derby. Le prix de la série digitale fiction a été attribué à Homoscope et le prix de la web-série à Fuck. Et puis nous allons parler évidemment aussi des prix du public. Ça, c'est également très important, les prix du public. Et le prix du public de la web-série a été attribué à la série Jean Dommage. Le prix du public de la série digitale documentaire à Putain de Nana. Le prix du public de la série digitale fiction à Escape. Et le prix du public de la mini-série a été attribué à l'intérieur. Voici pour vous la réaction de Vincent Lanoux, le réalisateur.
Super fier, super, super content. Et je trouve que le festival, c'est simple, c'est bien, c'est comme ce qu'on aime de la France, moi je vous le dis. Moi.
Et c'est un prix que vous dédiez évidemment à toute votre équipe, je suppose.
Je suis dédié aux auteurs d'abord, à Jeanne Le Guiou et Bruno Degas. Et aux producteurs, et puis évidemment à toute mon équipe et à tous les comédiens. C'est une série de comédiens et c'est un bonheur. Voilà.
Et le prix du public de la fiction unitaire a été attribué au téléfilm de Didier Bivel, D'un monde à l'autre. Et le prix du public de la série a été attribué à Crime Parfait. On a recueilli la réaction d'Arthur Mazé, l'un des comédiens principaux de la série.
Ça fait énormément plaisir. Quand j'étais sur scène, j'ai pas trouvé les mots. J'ai pas su quoi dire, mais là vraiment remercier vraiment le public de Luchon, tous les festivaliers qui sont venus voir le film et qui ont voté pour ce film, ça fait vraiment plaisir. Je trouve que le prix du public, vraiment symboliquement, c'est très fort, parce que c'est vrai que si on fait des séries, si on fait des films, c'est pour le public, et nous remercier de cette manière-là, c'est la plus belle des manières. Donc vraiment, je suis ravi. Je suis ravi. C'est tout ce que j'aurais bien voulu dire sur scène, mais là, j'étais tellement pas du tout. Je m'y attendais tellement pas. Que j'ai eu le temps de le faire après le dialogue. Je me suis dit, mais quel connard, j'étais sur scène, j'ai pas dit tout ça, mais quel con. Mais non, vraiment, c'est très chouette. Et Crime Parfait, c'est une série qui est assez jeune encore. Et que le public la reçoive comme ça, c'est trop cool. Et j'espère qu'on va continuer, on va faire d'autres épisodes et que le public sera toujours au rendez-vous, quoi.
Et pour les prix attribués par le jury fiction, hein, enfin, eh bien, nous avons le prix de la meilleure photographie qui est pour la série Zone Blanche, le prix de la meilleure musique originale et pour la série Thanksgiving pour Arte, le prix du meilleur scénario, c'est pour le téléfilm Illégitime, le prix du meilleur réalisateur pour Nicolas Saada pour Thanksgiving également, le prix du meilleur espoir masculin, c'est Jules Houplin qui le rafle pour le téléfilm D'un monde à l'autre, et le prix du meilleur espoir féminin est pour Nassima Bektaoui pour le téléfilm Ronde de nuit. Voici sa réaction.
Je suis très honorée, je suis très émue. C'est un bonheur et c'est pour tout le film en fait aussi. C'est quelque chose que je partage avec toute l'équipe du film. Voilà, je suis très heureuse.
Et avec tous les partenaires évidemment, tous les comédiens, l'équipe technique.
Tous les partenaires, l'équipe technique, la production. La scénariste Laura, voilà, avec tout le monde.
Écoute, je t'attends hein, dans l'émission, dans Je t'en écoute la télé pour venir en parler lors de sa diffusion. Merci beaucoup, Nassima, pour Ronde de nuit.
À vite, merci à vous.
Tandis que le prix de la meilleure interprétation, lui, masculine, a été attribué à Thierry Neuvik également pour le téléfilm Illégitime. Le prix de la meilleure interprétation féminine a été attribué à Alix Poisson pour L'enfant que je n'attendais pas. Le Pyrénées d'or de la meilleure mini-série pour À l'intérieur. Le Pyrénées d'or de la meilleure série, c'est pour Candice Renoir. Et voici son directeur de collection à notre micro, Marc Cressman, en réaction.
Je suis très content, très surpris. C'est un beau départ. Je suis ravi pour tout le monde, pour toute la famille Candice. Quand c'est une famille, Candice, et on est vraiment ravis. En plus, voilà, saison 7, c'est magique, c'est un bon chiffre, et on s'y attendait pas. Enfin, moi, je m'y attendais pas du tout, et voilà, ça félicite, ça récompense cette année de travail, parfois de dur labeur, mais toujours dans la bonne humeur de tous les acteurs, réalisateurs, producteurs, techniciens. C'est super.
Et pour clôturer ce palmarès, voici le Pyrénées d'or de la meilleure fiction unitaire, attribué au téléfilm Illégitime. C'est François Itter, responsable du développement de cette série à France 2, qui a réagi à notre micro.
Trois, oui, trois. Bah, le Grand Prix Pyrénées d'or pour le film.
Donc ça, inespéré. Le prix du scénario, qui est très important, parce que comme je l'ai rappelé sur scène, c'est le premier scénario de film fait par des jeunes scénaristes. Première production d'Antonin Ehrenberg et d'Olivier Bibas en fiction française. Et je dirais que tous ces prix et prix d'interprétation pour Thierry Neuvik, et j'ai l'impression que ça, c'est un festival qui nous prime les jeunes talents et les talents qui n'ont pas d'âge. Donc Guy Marchand, Achida Brakni, Thierry Neuvik, Sophie Quinton.
Et voilà que se referme cette 21e édition du Festival des créations télévisuelles de Luchon. Et comme à notre habitude, on va terminer avec Louis Ferré, maire de Luchon, pour le mot de la fin. Alors Louis, cette 21e édition, comment vous l'avez trouvée?
Je l'ai trouvée très belle. Très belle. J'ai trouvé qu'elle était très, très populaire. Il y avait beaucoup de monde, donc ça c'était le point important. Effectivement, il y a des personnes qui se sont plaintes de ne pas pouvoir accéder aux salles, mais c'est la rançon du succès, je dirais. En plus, la météo a été très clémente avec nous. On avait prévu un temps couvert, il a fait absolument magnifique. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des festivaliers, que ce soit des acteurs, que ce soit des gens du monde de la télévision, aussi bien que des visiteurs. Tout le monde a été absolument enchanté. Et à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un festival qui était encore plus convivial que les années précédentes. C'est peu dire, parce que la convivialité, c'est quand même la marque du Festival de Luchon. Donc c'est une très très belle édition qui s'achève aujourd'hui.
Alors comme le disait Christian Miégeville, le président de l'association du festival en début de festival, c'est le début d'une troisième décade, d'une troisième république en quelque sorte. Est-ce que vous êtes fier de cette troisième république?
Ah, tout à fait, tout à fait. Moi je tiens à féliciter les deux Christian et Christine, donc Christian Miégeville qui a repris la balle au bon tardivement, donc c'était un véritable challenge qu'il avait à relever. Christian Cap également qui a apporté tout son savoir-faire, son carnet d'adresses et on voit le résultat qui est quand même très beau. Et puis Christine qui a su mobiliser les bénévoles, les entraîner avec elle pour produire cette chose magnifique dont tout le monde est très 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 content. Et je pense que en plus, parce qu'il faut en parler, avec le trophée nouveau là, le pâtre qui est magnifique, hein, qui est vraiment très très beau, je crois que c'est effectivement un petit peu une ère nouvelle pour le festival et ça ouvre de beaux horizons pour l'avenir.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Voilà, c'est donc terminé pour cette spéciale Festival de Luchon. Rendez-vous l'année prochaine, évidemment. Et puis, merci également à tous nos partenaires qui nous ont aidés, évidemment, à nous rendre sur place. À notamment Volkswagen Marraine qui nous a véhiculés. Merci à l'hôtel Le Céleste également et à Véro qui nous a logés sur place. Merci également à notre restaurant partenaire, à Laurent, les Caprices d'Etigny. Voilà, merci à tous. Merci à toute l'organisation. Merci à tous nos attachés de presse adorés que l'on adore, évidemment, que ça soit du côté TF1, France Télévisions, M6 ou encore le groupe Canal. Merci aux attachés de presse du festival, également à Thierry et à Peggy. Merci à Christian Cap et à Christian Miégeville pour leur accueil. Et puis on se retrouve donc lundi prochain pour de très très nombreuses surprises. Je peux vous dire, ce sera une spéciale escale d'humour, le festival qui aura lieu à Royan du 15 au 23 février. On recevra notamment Elodie Pou, Gilles Alma et Anne Roumanoff. Il y a du beau monde en perspective.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine pour Chut, on écoute la télé, la quotidienne sur Open FM à 13h10. Et puis bien sûr, rendez-vous dès lundi prochain pour la grande hebdo dès 17h. D'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé avec les tourtes Limousine. Spécialité élaborée en Limousin sans huile de palme, sans conservateur. Pâté de pommes de terre, viande et autres tourtes confit de canard, cèpe ou gésier en vente partout dans vos grandes surfaces.